Cette année-là, sur Radio Grand Ciel, une émission proposée
par Elisabeth Couget
et par Christine Infota. Bonjour Christine, quelle année allons-nous évoquer aujourd'hui ?
Je propose de redécouvrir et de nous remémorer l'année 1989, dont nous avons gardé sans doute pour beaucoup d'entre nous un souvenir vivace. Au tout début de cette année, le 7 janvier, disparaît un dieu, ou tout au moins un homme d'essence céleste, divine et sacrée, selon l'article 3 de la Constitution japonaise. C'est le 124e empereur du Japon, l'empereur Hirohito, qui meurt à 87 ans après 62 ans de règne. Mais Hirohito n'est plus vraiment un dieu depuis décembre 1945 et la capitulation japonaise, forcé de renoncer au culte impérial et contraint d'abolir cet article 3. Désormais, ses sujets pouvaient lever les yeux sur lui sans craindre d'être décapité d'un coup de sabre.
Oh, c'est quand même mieux, hein ? Après un mort, des naissances peut-être ? Celle oui. des sextuplés du 14 janvier à Paris ? À la maternité de Port-Royal, il y avait trois garçons et trois filles qui pèsent entre 1 kg et 1,5 kg. 6 à la fois, c'est vraiment trop. Et ce traitement contre la stérilité est considéré comme un échec thérapeutique, là, dans ce cas-là.
Ce même jour, un autodafé, comme au temps de l'Inquisition, à Bradford, dans le nord de l'Angleterre, 1500 musulmans jettent au feu des piles d'exemplaires d'un ouvrage de l'écrivain Salman Rushdie en criant au blasphème. Il s'agit du livre « Les versets sataniques ».
Exactement. Alors, pas d'autodafé, par contre, pour Gauguin, dont l'expo au Grand Palais, qui ouvre ses portes le 14 janvier, rassemble quelque 200 œuvres. Et elles ont pourtant fait scandale du vivant de Gauguin par l'audace des couleurs, le refus de la perspective, certainement l'origine du monde, ajoute à cette immense peinte frappée par sa modernité. Un événement majeur de l'année artistique.
C'est un autre peintre qui part pour l'au-delà le 23 janvier 1989. Il s'agit de Salvador Dali et il meurt à Figueras sur la Costa Brava. Le plus éblouissant des surréalistes laisse une œuvre où le meilleur côtoie le pire. Il a demandé que sa dépouille momifiée soit déposée sous une voûte de verre au milieu de ses tableaux et de quelques objets symboliques dont une Cadillac, extravagant jusqu'au bout.
Oui. Le 2 février, il fait beau, mais un beau temps. Mais c'est pas beau à Paris parce qu'on ne voit plus rien. On distingue à peine la tour Eiffel. Dans l'épais brouillard chargé de gaz toxique, les experts commencent à s'en inquiéter de cet effet de serre et de la pollution qu'elle entraîne.
À Vilnius, en Lituanie, la cathédrale, fermée en 1949, transformée en entrepôt, rouvre ses portes 40 ans plus tard, le 5 février. Émotion et joie. Et l'évêque de Vilnius déclare « C'était comme si nous étions sous un nuage noir qui avait couvert la Lituanie pendant tout ce temps. »
Joie aussi à Luxor. Le 10 février, à la découverte de 5 statues de grande taille, admirablement conservées. Elles étaient enfouies sous la cour d'un temple depuis 35 siècles. Donc c'était à l'époque
du règne de Louis IV. Oui. La comédie musicale Cats, Chats, triomphe à Paris, après Londres, New York, Tokyo, Vienne et Amsterdam. Les acteurs grimés ressemblent à s'y méprendre aux matous de nos coins de rue et miaulent à qui mieux en dansant et en chantant.
Alors le 21 février, Jeanne Calment, encore très en forme, fête ses 114 ans.
Pas mal.
Oui, elle est née en 1875 sous la présidence de MacMahon. Elle déclare qu'elle a une santé merveilleuse et garde une mémoire étonnante.
Par contre, le 27 février, disparaît Conrad Lorenz à 85 ans. Conrad Lorenz était un spécialiste du comportement des animaux et il était le théoricien de l'imprégnation, selon laquelle tout jeune animal s'attache à celui qui le nourrit. Ce prix Nobel de médecine en 1973, ce savant original, partageait d'ailleurs sa vie avec une ribambelle d'oisée de canard qu'il s'était attaché et qui le suivait partout.
Bien haut dans le ciel, un terrible accident frappe. un Boeing 747 de la compagnie United Airlines sur le vol San Francisco-Sydney. L'avion perd l'altitude et une partie de son fuselage à 6000 mètres au-dessus de Hawaï. Voilà, ça devient un moment terrible. Hein. 11 personnes de la classe affaires sont aspirées dans le vide. Le pilote parviendra tout de même à poser l'appareil à Honolulu.
Tout de même. Le 6 mars, les Tibétains affrontent l'Empire du Milieu, ou plus exactement, des policiers chinois armés, et les Tibétains n'ont que des cailloux et des pierres. Ceci dans les rues de Lhasa, leur capitale. Les troubles ont éclaté lorsque la police a ouvert le feu sur une dizaine de moines et de nonnes bouddhistes qui participaient à une marche pour l'indépendance du Tibet. La répression est sévère et des dizaines de manifestants se retrouvent sous les verrous.
Le 14 mars, Zita, la dernière impératrice d'Europe, s'éteint à 97 ans. Une petite parenthèse, elle n'a jamais été impératrice. Elle était reine de Hongrie et elle était l'archiduchesse d'Autriche. En 1916, à la mort de François-Joseph, elle et son mari, donc Charles IV d'Autriche, ne sera jamais couronnée empereur et impératrice.
Oui.
Par contre, ils ont été couronnés roi et reine de Hongrie et c'est le seul titre officiel qu'ils avaient. Hein. Enfin bon, c'est
elle
pas grave.
Elle était née princesse de Bourbon-Parme, c'est ça?
Oui, exactement. Et donc, c'était une très jolie jeune femme, très pieuse, très croyante. Et après l'abdication de son époux, puisqu'il y était contraint, elle le suit en exil à Madère, où ils arrivent d'ailleurs à cause d'elle, puisque sa famille l'accueille. Aucun pays européen ne veut les recevoir. C'est terrible, comment terminer la vie de cette...
Une sorte d'exil, oui.
Exactement. Elle est devenue veuve à 30 ans et élèvera courageusement ses 8 enfants, soutenus par une foi inébranlable. En 1982, après 63 ans d'exil, elle peut quand même regagner Vienne, où elle est accueillie en triomphe.
Une grande et noble figure. Au sud de l'Alaska, le 24 mars, l'échouage d'un pétrolier, l'Exxon Valdez, conduit à une catastrophe écologique sans précédent. Des millions de litres de pétrole sur des dizaines de kilomètres carrés, d'innombrables poissons et oiseaux englués.
Ah oui, c'était terrible. Ce ne sera pas la seule de ce genre, malheureusement.
Un grand moment à Paris le 29 mars avec l'inauguration de la pyramide du Louvre. Après bien des contestations, le Louvre, dont les fondations datent de Philippe Auguste, s'orne d'une forme égyptienne plusieurs fois millénaire, mais modernisée et en verre.
Mmh. Ce même jour, Rainman obtient 4 Oscars aux États-Unis. L'acteur Dustin Hoffman dédie son trophée aux enfants autistes dont s'inspire le film.
La guerre froide est bien finie. Le 7 avril, le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev, vient en visite à Londres et il invite la reine à venir, à son tour, à Moscou. Aucun souverain britannique ne s'est rendu en URSS depuis la révolution de 1917 et le massacre du tsar et de sa famille, qui étaient apparentés au Windsor. Mmh.
En France, on commence à préparer le bicentenaire de la Révolution française. La population française a doublé en 2 siècles et l'espérance de vie en 1789 était de 28 ans
seulement
pour les femmes et à peu près la même chose pour les hommes. En 1982, elle atteint 72 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes.
Quand même des progrès, quand même, en 2 siècles. Et un objet de fierté, on commence la construction du Charles de Gaulle, un porte-avions de 36 000 tonnes. Son entrée en service est prévue pour 1996. Il pourra embarquer 1850 hommes et remplacera le Clémenceau. Son coût, plus de 20 milliards de francs.
Ah oui, c'est vrai, puisqu'on compte encore en francs. Ça fait quand même beaucoup, même en euros, qu'il faudrait diviser par 6,6 et 6 et encore 6. Donc, c'était beaucoup d'argent quand même.
À Pékin, le 19 avril, une manifestation réunit des milliers de personnes, dont une majorité d'étudiants sur la place de la Porte de la Paix Céleste. Est-ce qu'elle porte bien son nom? Je ne sais pas.
Tian
Anmen. sous le regard de Mao en effigie.
Alors, parallèlement, l'étau se desserre en Europe de l'Est. Le 25 avril, le 13e division blindée russe, mis en place en 1956, se retire entièrement de Hongrie. À 150 km au sud de Budapest, les chars sont réembarqués en train vers l'Ukraine.
Bon débat.
Oh oui.
Sur un plan plus léger à Paris, le gigantesque Aqua Boulevard vient de s'ouvrir près de la porte de Versailles. Il ne sera dépassé que par l'Odyssée, bien des années plus tard. Le parc Astérix va suivre bientôt dans l'Oise et le monde fabuleux de Disney prépare son entrée en scène pour 1992.
Alors à Paris aussi, le 1er mai, on peut voyager. Ou sur la Seine, en bateau, avec la ligne bateau-bus, toutes les 45 minutes depuis l'hôtel de ville jusqu'à la Tour Eiffel, en passant par Notre-Dame, le musée d'Orsay. C'est un circuit touristique un peu cher, mais qui permet d'oublier les transports en commun bondés et les souterrains du métro.
Le 2 mai, Yasser Arafat, le leader de l'OLP, est reçu en chef d'État à l'Élysée. Arafat se déclare prêt à admettre la coexistence de deux États, Israël et la Palestine. Une avancée enfin ? À Bercy, c'est le triomphe de Carmen, avec Teresa Berganza dans le rôle titre. Un spectacle événement impressionnant, avec arènes, chevaux, calèches, toréadors et danseurs.
Danseurs, voilà. Effectivement, j'y étais et j'en garde un souvenir extraordinaire.
Wow.
C'est vrai.
Le temps d'une pause musicale, écoutons l'ouverture de Carmen.
Voilà, et nous reprenons notre regard sur cette année que nous effeuillons, toutes ces journées, tous les mois qui déroulent. Et nous arrivons au mois de mai, 30 mai, les étudiants chinois continuent à créer l'événement. Ils dressent une réplique en plâtre de la statue de la liberté sur la place Tiananmen. Elle n'a que 4 mètres de haut. Un des artistes va déclarer « Nous, la liberté, on ne la connaît que d'après les photos ».
En France, un oppresseur vient enfin d'être arrêté à Nice. Il s'agit de Paul Touvier, ancien chef de la milice de Lyon pendant la guerre. Il était recherché depuis 40 ans pour crimes contre l'humanité, assassinat de juifs et de résistants, et condamné deux fois à mort par contumace.
Ah oui, c'est terrible quand même. Après la chute de... Non, après...
Le 4 juin,
il y a l'ayatollah Khomeini. Ah oui, j'ai oublié qu'il est venu aussi en France.
Quelqu'un du style aussi
alors,
horrible.
Qui ne vaut pas grand-chose, pas mieux. Hein.
Absolument.
Et il meurt dans son lit à 89 ans. Et après la mort de l'ayatollah, et puisqu'il y a eu la chute du Shah, il a été le maître absolu de l'Iran pendant 10 ans. Il a fait exécuter 50 000 opposants et a envoyé à la mort 1 million de soldats dans une terrible guerre contre l'Irak.
Le même jour en Pologne, c'est le triomphe du parti Solidarność aux élections législatives, soutenu par Lech Walesa. C'est une victoire de la liberté.
Mais ce même jour aussi, tout bascule en Chine. L'armée tire sur des centaines de milliers de jeunes étudiants, chômeurs et ouvriers sur cette fameuse place Tiananmen, sur des chars pointant leurs fusils sur les manifestants aux mains nues. Les chars ont foncé sur la foule, balayant tout sur leur passage et écrasant sous leurs chenilles des dizaines et des dizaines d'étudiants.
Dans la matinée, le présentateur de Radio Pékin révèle « Il y a eu des milliers de morts. L'armée a tué au hasard sur la foule sans défense. » Le présentateur est aussitôt remplacé et le communiqué suivant dira « Nous avons maté l'émeute contre-révolutionnaire. » C'est la fin du printemps de Pékin.
Il y a foule à Roland-Garros ce 11 juin pour assister à la victoire sur le central de Michael Chang, un Américain d'origine chinoise, âgé de 17 ans seulement. Son service de débutant à la cuillère est parvenu à surprendre son adversaire, le Suédois Stefan Edberg, après avoir ébahi et rendu complètement figé Ivan Lendl.
À Pékin, pendant ce temps, la peur s'installe. L'heure est à la répression et à la dénonciation. La justice est expéditive. Chaque procès ne dure que quelques minutes. Les premières condamnations à mort tombent. La liberté est écrasée. À Paris, par contre, on s'active pour la préparation du bicentenaire de la Révolution qui aura lieu le 14 juillet. 1 million de personnes sont attendues, une trentaine de chefs d'État, une nuée de gardes du corps et 30 000 policiers. Les responsables du protocole et de la sécurité sont sur les dents.
À Paris toujours, le 26 juin, les finances s'installent à Bercy. Adieu le Louvre, après 118 ans passés rue de Rivoli. Pour les fonctionnaires des finances, et bienvenue au nouveau ministère monumental et futuriste.
Peut-être pas toujours de bon cœur, ce départ. Et le 9 juillet, à Rouen, venus du monde entier, les plus grands trois mâts du monde sont au rendez-vous. 300 voiliers et le penduic d'Éric Tabarly font claquer leurs voiles devant 30 000 spectateurs. Ils appareilleront le 16 juillet en un cortège long de 20 km vers l'estuaire de la Seine, d'où ils reprendront le large. Ce nouveau rendez-vous, l'Armada de Rouen, aura lieu désormais tous les 4 ans.
Le 13 juillet, une autre grande fête, c'est l'inauguration de l'Opéra de Bastille. Pour cette soirée de gala, les ballets, les chœurs et l'orchestre de l'Opéra de Paris sous la baguette de Georges Prêtre et les voix sublimes des plus grandes stars du lyrisme de Barbara Hendrix à Placido Domingo.
Le lendemain, 14 juillet, le monde entier est convié à fêter le bicentenaire de la Révolution française. Et il y a 200 ans, le peuple de Paris s'emparait de la Bastille. 1 million de spectateurs, 800 millions de téléspectateurs vont assister à une gigantesque parade qui durera 3 heures. Et c'est Jean-Paul Goude qui orchestre cette incroyable superproduction avec 6 000 acteurs et figurants. Retransmis dans 112 pays en direct, et le nom de cette superproduction, La Marseillaise, tout
bien,
simplement.
Bien trouvé.
À la fin, Jesse Norman, drapée dans une robe bleu, blanc, rouge, interprète seule, sans orchestre, l'hymne national.
Le 20 juillet, le gouvernement décide d'interdire un nouveau sport, le saut à l'élastique, car c'est la troisième fois cette année que quelqu'un relié par un simple fil élastique se tue en sautant dans le vide. Le saut à l'élastique vient des nouvelles hybrides où des adolescents retenus aux pieds par les lianes se lancent du haut des tours en bambou pour franchir le cap de l'âge adulte.
Toujours en France, le 25 juillet, rien ne va plus. Entre Karl Lagerfeld et son mannequin, Inès de la Fressange, dans la maison Chanel. La jeune femme accuse le couturier d'avoir refusé qu'elle soit le modèle de la Marianne républicaine qui va trôner dans les mairies. Dommage.
Oui, c'était Catherine Deneuve.
Finalement.
Oui, exactement. Alors, le 4 août, on déplore les forêts en feu partout. Déjà, malheureusement, en France, près de Marseille, dans le Luberon, en Corse et en Gironde, dans les Landes, en Bretagne, mais aussi à l'étranger, au Canada et aux États-Unis. Les causes sont la sécheresse, le vent et parfois, malheureusement, des actes criminels.
Le 6 août, Le Monde perd son fondateur. Je parle bien sûr du journal Le Monde. Hubert Beuve-Méry a 87 ans. Il avait été le patron du quotidien du premier numéro, le 18 décembre 1944, jusqu'en 1969. Il signait les éditoriaux sous son nom de plume, Sirius.
Sirius. Hein. Le 11 août, les religieuses carmélites polonaises, qui s'étaient installées tout près d'Auschwitz, sont priées de quitter les lieux. Pas de rivalité entre juifs et chrétiens pour honorer la mémoire des victimes. Le camp de la mort est rendu au silence.
Le 10 août, un noir est nommé pour la première fois à la tête de l'armée américaine sous la présidence de Reagan. Il va occuper ce poste donc et il s'agit du général Colin Powell.
Un grand pas aussi en Afrique du Sud. Le 15 août, le nouveau président Frédéric de Klerk veut rompre le cycle de violence et d'isolement et de tension quelques années plus tard avec Nelson Mandela Il mettra fin au régime de l'apartheid.
Le 23 août, Shirley Temple passe à Dresde. L'adorable fillette qui a 6 ans, avait tourné 8 films d'affilée en 1934, a été nommée ambassadeur des États-Unis en Tchécoslovaquie. C'est son deuxième poste d'ambassadeur après le Ghana.
Alors nous parlions d'incendie un peu plus tôt. Le 29 août, la montagne Sainte-Victoire, qui domine Aix-en-Provence, part en cendres. Les dégâts sont considérables et c'est devant cette montagne que Paul Cézanne planta son chevalet et que durant 4 années, il peindra sur ses toiles les nuages de la couleur et de la luminosité de ce coin de Provence est tellement merveilleux.
Radio Grand Ciel.
La Hongrie ouvre ses frontières le 10 septembre, cette année après le départ des Russes. Il y a 500 ans d'occupation de ce pays, c'est terminé. Difficile à imaginer un pays occupé durant 5 siècles. Parce qu'il y avait tout, il y avait les Autrichiens.
Il n'y a pas que les Russes,
voilà. Non, il n'y a pas que mais c'est les Russes qui ont terminé. Et donc, ils ouvrent leurs frontières ce 10 septembre, à minuit exactement. Et c'est le premier pays du bloc soviétique et socialiste à ouvrir ses frontières pour permettre aux dizaines de milliers de réfugiés venus du RDA de passer à l'autre côté du rideau de fer. Et à Berlin-Est, la décision est ressentie comme un camouflet et une grave atteinte à la solidarité entre peuples frères.
Maigret ne mènera plus l'enquête. Georges Simenon disparaît à 86 ans. Simenon aura été l'un des écrivains les plus connus et les plus prolifiques du XXe siècle. Environ 500 œuvres tirées à plus de 500 millions d'exemplaires, traduites dans 93 langues et dialectes.
Le 11 septembre, le monde de la tauromachie est plongé dans la consternation. Le grand torero français Nimeno II est très grièvement blessé lors de la feria d'Arles par un Miura, un de ces légendaires taureaux andalous. Les Miura ont déjà tué 9 adversaires, dont le célèbre Manolete en 1947.
Le 24 septembre, c'est un attentat qui provoque l'explosion en plein vol d'un DC-10 d'UTA sur la ligne Brazzaville-Djamena-Paris avec 171 personnes à bord. Une bombe a été placée dans la soute à bagages. On s'oriente vers la piste chiite.
Et oui, déjà.
Et à New York, Irving Berlin s'éteint à 101 ans. Vous ne le connaissez pas, peut-être, mais vous pourriez fredonner certaines de ses chansons. Il laisse 19 comédies musicales, dont Annie, Get Your Gun, et d'innombrables musiques, dont Cheek to Cheek. Vous connaissez ça, oui. Je pense. On lui doit aussi le fameux God Bless America.
Alors, ce 20 septembre 1989, l'informatique fait un nouveau pas vers la miniaturisation. Apple lance un ordinateur portable qui ne pèse que 6 kg 200 g. Toujours plus petit dans l'avenir, mais à Paris, on revient sur le passé.
Avec une impressionnante fresque historique au Palais des Sports, mise en scène par Robert Hossein dans La nuit, la liberté. L'histoire raconte le sacrifice héroïque des résistants anonymes prêts à tout pour libérer la France de l'occupation allemande.
Un grave événement se passe puisque un grand personnage va recevoir le 10 octobre le prix Nobel de la paix. Et c'est le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains en exil en Inde depuis 1959. C'est un nouveau pas vers la paix aussi en Afrique du Sud, où 8 chefs de l'ANC sont libérés. Reste encore en prison, toujours Nelson Mandela, qui ne sera libéré qu'en 1990.
Soit quelques mois plus tard.
Oui.
Le 17 octobre, à 17h04, la terre tremble à San Francisco. La secousse d'une magnitude de 6,9 ne dure que 15 secondes. Et heureusement, c'est beaucoup moins fort qu'en 1906. On déplore toutefois la mort de 272 personnes qui, pour la plupart, se trouvaient dans leur voiture et circulaient sur le pont de Bay Bridge quand celui-ci s'est effondré. Mm-hmm.
À Paris, en octobre, les esprits s'agitent autour d'un fait de société, le foulard islamique à l'école. C'est ce qu'ont fait deux jeunes collégiennes à Creil. D'abord exclues, elles ont été réintégrées à condition de garder leur voile baissé sur leurs épaules. Un État laïque ne souhaite pas que l'on affiche sa religion de manière trop voyante. Mais le débat est loin d'être clos, comme vous devez le savoir.
Le 26 octobre, une grande dame entre à l'Académie française. C'est Jacqueline de Romilly, grande spécialiste du grec ancien. Elle est la deuxième femme à y être accueillie par les 70 membres, après Marguerite Yourcenar.
Requiem pour Vladimir Horowitz, le 5 novembre. Il était le gendre de Toscanini et un des plus grands pianistes du siècle. Il est né en Russie. Il s'était exilé aux États-Unis, mais en 1986, il avait pu revenir jouer à Moscou. C'était un merveilleux interprète de Chopin, Liszt et du répertoire russe.
Le 10 novembre a lieu l'événement le plus marquant de l'année, mais aussi un fait historique majeur de cette fin de siècle, la chute du mur de Berlin. En août 1961, l'armée de la RDA avait commencé à édifier ce mur de béton long de 164 km. Cette frontière de pierre n'est achevée qu'en mai 1962. Elle sera restée debout 28 ans. Le 9 novembre, vers 19h, les autorités est-allemandes annoncent que les candidats à l'émigration peuvent passer à l'ouest. À 21h30, un jeune couple se présente, montre une carte d'identité et se retrouve aussitôt à l'ouest, à sa grande surprise d'ailleurs.
Alors, en quelques heures, la brèche devient un trou béant par lequel une marée humaine va s'engouffrer jusqu'à l'aube. Des milliers de gens se pressent, s'embrassent, rient et pleurent devant les soldats devenus inoffensifs. Cette nouvelle incroyable fait aussitôt le tour du monde. Des familles peuvent retrouver leurs proches, découvrent les restaurants, les magasins de Berlin-Ouest, ivres d'une liberté toute neuve.
Le 20 novembre, l'ONU adopte à l'unanimité la Convention sur les droits de l'enfant, garantissant une protection à tous les jeunes de moins de 18 ans, du moins en théorie. Mais c'est quand même un pas vers l'amélioration du sort de millions d'enfants dans le monde et l'affirmation de leur dignité.
Le 1er décembre, la jeune Nadia Comaneci, la petite fée des Jeux de Montréal en 1976, quitte clandestinement son pays, la Roumanie, qui s'obstine à rester fermée. Elle atterrit à New York, un parfait saut de l'ange pour l'ex-champion de gymnastique.
Ce même jour, Mikhail Gorbatchev est reçu au Vatican par Jean-Paul II, un tête-à-tête qui dure une heure et demie. Le chef du Kremlin, visiblement ému, évoque ensuite la reprise des relations diplomatiques avec le Vatican, rompues depuis la révolution d'octobre en 1917.
C'est à Moscou, le 14 décembre, que disparaît Andrei Sakharov, à 68 ans. Il était à la fois le père de la bombe H soviétique et le prix Nobel de la paix. 1975, il fut lui-même arrêté en 1980 et envoyé en exil. Je voulais juste dire qu'en 1975, il n'avait pas le droit d'aller récupérer son prix.
Et c'est grâce quand même à Mikhail Gorbatchev que les époux Sakharov furent autorisés à rentrer à Moscou en 1986. Au Chili, ce même jour, on fête la fin des 16 ans de dictature d'Auguste Pinochet, qui avait pris le pouvoir en 1973 par un coup d'État. Et en France, trois figures de la Révolution française sont transférées au Panthéon. Il s'agit des mathématiciens Monge et Condorcet et de l'abbé Grégoire qui défendit les Juifs et se battit contre l'esclavage.
Cette année 1989, il y avait un énorme vent de liberté qui soufflait.
Oui,
d'espoir. À travers le monde, d'espoir.
L'espoir, voilà. Souvent, des lendemains qui changent,
voilà.
Vraiment.
Et voilà. Et nous,
à bientôt.
Nous vous disons au revoir en espérant de vous retrouver là.
Pour une prochaine émission cette année-là.